RMC, face aux grandes gueules.
Face aux grandes gueules, notre confrère de Valeurs Actuelles, Tuc Dual-Denis, avec ce livre sur la droite, un livre assez intime. Vous parlez beaucoup de vous, de votre famille. Ça s'appelle La cendre et le feu aux éditions Robert Laffont. Bonjour Tuc Dual.
Bonjour Alain, bonjour Olivier, bonjour à tous.
Je vais commencer par un extrait du livre.
Eh bien écoutez, avec grand plaisir.
Je le regarde sous la pluie, son jerrycan d'essence à la main, son sourire protecteur, sa veste trempée, ses cheveux noirs bien peignés malgré le grain. Tout ruisselle. En devenant ami avec mon idole, j'ai réalisé le rêve de ma vie. Moi, je me suis dit, il parle de, tu vois, de Jagger, de Springsteen.
Et tout d'Alain Marchal, peut-être.
Tout d'Alain Marchal. Non, il parle de François Fillon.
Eh oui.
François Fillon.
Tout à fait, j'ai retrouvé.
Vous en êtes pas remis de François Fillon.
Non, pas remis.
C'est une lettre d'amour, là, François Fillon. Il y a un chapitre qui s'appelle François.
Exactement. Vous me connaissez un peu, effectivement. Vous savez que je suis très filloniste. J'ai écrit un livre sur lui en 2019 chez Plon à l'époque. Et là, dans ce portrait de la droite, à travers ces paysages ces personnages, je ne pouvais pas à la fois ne pas emmener le lecteur dans la Sarthe, où par ailleurs je possède une maison, je suis tellement filloniste que je me suis aussi acheté une maison dans la Sarthe, et en même temps parler de l'héritage du fillonisme, parce que blague à part, effectivement je sur le plan personnel, je dis que je suis devenu ami avec mon idole. Il a fallu d'ailleurs pour cela que je cesse d'être un fan. On a maintenant une relation, je pense, entre guillemets, un peu équilibrée.
Il a fallu qu'il perde, surtout.
Oui, effectivement. Non, mais c'est très juste ce que vous dites. François Fillon serait devenu président de la République, je serais pas devenu aussi proche de François Fillon, ça c'est absolument certain. Et en même temps, moi je vous avoue, et d'ailleurs y compris quand pour préparer des passages sur BFM, quand j'ai l'honneur de venir dans votre tranche, j'appelle souvent François Fillon pour lui demander qu'est-ce qu'il pense du modèle social français, qu'est-ce qu'il pense de Bruno Retailleau, qu'est-ce qu'il pense d'Edouard Philippe, qu'est-ce qu'il faut dire sur les soubresauts géopolitiques. Et je vous garantis, alors je suis peut-être pas très objectif, mais je vous garantis.
François Fillon, c'est le ventriloque, il parle par la voix de Tuc Dual-Denis, alors c'est taillé.
Non, mais honnêtement, je suis peut-être pas très objectif, mais moi je vous garantis qu'il a gardé une acuité sur les choses qui se passent dans ce monde tout à fait phénoménal. Et par ailleurs, il représente, parce qu'il y a aussi un peu de fond sur ce qu'est la droite dans ce livre, pour moi, il représente la droite aboutie, c'est-à-dire qu'il y a la radicalité chez François Fillon. Honnêtement, le François Fillon de 2016-2017, et puis même aujourd'hui que je fréquente, il est plus radical que celui qui était ministre des Affaires Sociales ou Premier ministre pendant 5 ans de Nicolas Sarkozy. Et en même temps, il y a cette espèce de sophistication, c'est-à-dire que contrairement à d'autres personnages aujourd'hui dans le plateau politique, on sait que lui, il sait piloter l'État, il a quand même une expérience. Et moi, c'est
alchimie. Alors justement, le François Fillon ne sera pas a priori candidat à l'élection présidentielle pour la prochaine. Quelle est la droite qui, selon vous, a le plus de chance? La droite Édouard Philippe, c'est pas vraiment votre droite? Ou la droite Bruno Retailleau? Ou la droite Bardella, si c'est Bardella plutôt que Le Pen?
Je pense que la droite est dans une situation totalement paradoxale, c'est-à-dire que sur le plan politique, c'est très compliqué de voir qui peut prendre le lead, pour parler en bon français. Chacun a des qualités, chacun a des défauts, j'y reviendrai. Et en revanche, ce qui m'a frappé, et c'était un peu à la base de mon projet aussi, c'était de faire le roman de la droite, c'est-à-dire raconter comment elle vit, comment elle se fréquente, ses réseaux, ses maisons de famille, son histoire, ses tenues, ses musiques. Et cette droite-là, elle est brûlante, elle est incandescente. En tout cas, moi, j'ai voulu rendre cette incandescence en expliquant effectivement qu'est-ce qui se passait dans le jardin de Philippe de Villiers, dans la maison de François Fillon, quand je marche au Havre avec Édouard Philippe. On est allé à la Trinité-sur-Mer avec Marine Le Pen. J'ai assisté aux obsèques, aux doubles obsèques entre guillemets de son père, et j'ai vu quelque chose qui voulait parler de la droite.
Parce que Marine Le Pen, elle ne se revendique pas de droite.
Oui, mais ça,
contrairement à son père.
Moi, je suis désolé. C'est pas parce que Marine Le Pen se revendique pas de droite qu'elle a pas sa place dans mon livre, ou c'est pas parce que certains de mes amis pensent qu'Edouard Philippe est de gauche, qu'il n'a pas sa place dans mon livre. Moi, Marine Le Pen, quand je parle avec elle, on a grandi au même endroit, Saint-Cloud. J'étais au collège à 250 mètres de là où elle habitait. On fréquentait, entre guillemets, les mêmes territoires. On écoutait les mêmes musiques. Elle connaît aussi les mêmes cantiques. Et quand on a discuté longuement pour ce livre de la mort de Jean-Marie Le Pen, des obsèques de Jean-Marie Le Pen, que ça soit à la Trinité ou au Val-de-Grâce, il y avait une espèce de symbolique qui est très droitière, et c'est pareil pour François Bayrou.
Vous mettez tout le monde dans la même famille, parce qu'on pourrait confondre, enfin on pourrait distinguer la droite de l'extrême droite.
Écoutez, moi je pense que l'union des droites, elle n'existe pas aujourd'hui sur le plan électoral. Par ailleurs, c'est un projet politique sur lequel, vous voyez, j'aurais tort de vouloir mettre mes doigts, parce qu'il y a que des coups à prendre, et moi je sais pas si c'est possible, je sais même pas si c'est souhaitable. Moi, je pense plutôt qu'un jour, il y a quelqu'un en mode politique de love qui arrive à prendre le leadership et l'autorité sur la droite.
Ce qu'a fait Sarkozy en 2007.
Exactement. Ce qui a failli réussir à faire François Fillon en 2016. En revanche, il y a une union des droites sur le plan charnel. Quand je vais à Beyrouth pour le livre avec avec François Bayrou pour le livre dans les Pyrénées et qu'il me reçoit dans sa mairie aveuglé d'un soleil blanc avec la vue sur les cimes des Pyrénées, ou qu'on prend la voiture et qu'on va à Bordère, le village où son père qui était agriculteur est mort dans un accident de ferme, qui me parle des lectures de son père, qui me parle de Bernanos, qui me parle de la crise intérieure française, qui me parle de l'identité française, ou quand je vais avec Édouard Philippe au Havre et qu'on discute et qu'il me dit que aujourd'hui, sauf à vouloir l'humilier, plus personne le qualifie de juppéiste, qu'on débriefe ensemble dans un restaurant libanais qu'on aime beaucoup là-bas, ce qu'il a l'appel à la démission qu'il a fait d'Emmanuel Macron, et qui m'explique qu'aujourd'hui, il vit la vie de Marine Le Pen, c'est-à-dire que 80% des gens qu'il croise sont d'accord avec lui, et ça, c'est les vrais gens, et que les 20% qui restent, en fait, c'est ses amis à lui, c'est-à-dire des conseillers d'État, des hauts fonctionnaires, des anciens ministres, des gens, entre guillemets, de l'établishment, et qui me dit, ça y est, je viens de comprendre, à l'âge que j'ai, ce que pouvait être la vie de Marine Le Pen. C'est-à-dire, en fait, tout le monde est d'accord avec vous, sauf les soi-disant sachants.
Alban.
C'est
le prénom de mon frère.
Oui, non, mais c'est parce que c'est. Je voulais après parler du passage sur votre frère, qui est très émouvant, très touchant, votre frère Alban, qui est devenu prêtre.
Exactement, avec plaisir.
Alors, quand j'ai reçu l'ouvrage, honnêtement, j'y suis allé à reculons, mais je dois reconnaître une grande honnêteté intellectuelle. Et ce qui est fort dans cet ouvrage, c'est qu'il aurait pu se décliner sur la gauche aussi, avec les personnalités de gauche et l'histoire de la gauche. Quand on finit, on a l'impression quand même d'une droite qui semble meilleure dans l'opposition que quand elle est au pouvoir. Vous parlez beaucoup aussi des réseaux, des familles, des codes, des écoles, des cercles. Mais aujourd'hui, la droite... N'est-ce plus qu'une culture ou est-ce toujours un parti politique ? Parce qu'avant, les réseaux nourrissaient des travaux qui étaient déjà enclenchés dans les partis. Tandis qu'aujourd'hui, on a l'impression, peut-être à tort, que ces réseaux prennent le pas sur le travail idéologique des partis.
Vous avez tout à fait raison, et c'est pour ça d'ailleurs que j'explique dans mon livre, en prenant une métaphore, le phénomène des Fata Morgana, c'est des mirages qui sont dits supérieurs, où une couche d'air chaud vient se superposer sur une couche d'air froid. Et on observe ce phénomène dans des endroits assez particuliers, comme le détroit de Messine, entre l'Italie et la Sicile, ou dans la baie des Chaleurs au Canada. Et en gros, pour moi, c'est ça qui est en train de vivre la droite, c'est cette espèce d'énorme mirage, où vous avez l'air chaud, c'est les audiences de certaines chaînes de télévision, de certaines émissions, l'influence de certaines têtes de gondole de la droite, les ventes de livres... Un allant général quand même de la droite dans le débat public, on entend, y compris dans la bouche de gens de gauche, dire que la droite revient en force, voire il y a une alliance de l'extrême droite et de la droite, etc. Et en même temps, une offre politique compliquée, parce qu'il ne se passe rien de droite dans ce pays, objectivement, je veux dire sur la fiscalité, sur les flux migratoires, sur l'éducation.
Emmanuel Macron n'a pas fait une politique de droite parce que certains l'accusent d'avoir fait une politique de droite.
Écoutez, moi, pas assez à mon goût. Pour moi, il a fait du en même temps, donc c'est-à-dire du sur place. Et puis, longtemps, la droite aussi au pouvoir n'a pas réussi à faire une politique de droite.
En fait, à droite, on l'accuse de faire une politique de gauche et à gauche, on l'accuse de faire une politique de droite. Où est la vérité, en fait?
L'ambiguïté, c'est que Macron a plus mis des gens de droite au pouvoir, notamment à Matignon, Édouard Philippe, Jean Castex, Sébastien Lecornu, les principaux ministères sont confiés en ce moment à des gens de droite, Catherine Vautrin, Gérald Darmanin. Donc quand vous dites il n'y a pas de droite, etc., il y a des gens de droite qui sont au pouvoir.
Il y a des gens de droite qui sont au gouvernement, ça j'aurais du mal à vous contredire. Mais qu'est-ce qui s'est passé sur l'inversion des flux migratoires ces dernières années? Qu'est-ce qui s'est passé sur la fiscalité des entreprises ces dernières années? Qu'est-ce qui s'est passé sur la composition du Conseil constitutionnel ces dernières années?
Les entreprises, ça a baissé quand même, reconnaissez que.
Oui, non, mais c'est pas là-dessus que Macron a été le plus à gauche. Mais qu'est-ce qui s'est passé sur la mémoire historique française ces dernières années, qu'est-ce qui s'est passé dans le domaine de l'éducation, de la justice? On le voit avec l'affaire Liana, si vous voulez. C'est quand même un symptôme à la fois du laxisme et du dérèglement judiciaire que la droite aimerait inverser.
Et pourtant, Fatima, c'est un garde des sceaux de droite.
Eh ben, je sais bien.
Fatima.
Alors, quand on lit votre livre, c'est moins une enquête. C'est pas vraiment une enquête sur la droite, c'est plus un tableau. Vous qualifiez vous-même de tableau, effectivement, un tableau où c'est votre autoportrait qui se dessine en creux, et ma question c'est, et on vous voit très fan, effectivement, presque fasciné.
Romantique même.
Oui, il y a vraiment, et moi je trouve ça fascinant parce que je ne suis pas du tout comme ça. Donc la plupart du temps, quand j'ai le fait de côtoyer des politiques, non, je suis pas fascinée par les personnes.
Ouais.
Mais vraiment, j'ai
parlé responsable politique.
Non, mais c'est pour ça que je suis pas, ouais, parler responsable politique. Et souvent, j'ai été déçue la plupart du temps. Et je pense que je partage ça avec Antoine. On en parlait juste avant, cette déception. Donc, j'ai ma double question, c'est la suivante. D'une part, est-ce qu'on peut rester un journaliste crédible et audible en étant aussi fan? Donc, est-ce qu'on va pas vous reprocher cette subjectivité,
cette proximité,
même si elle est assumée, pardon? Et la deuxième, est-ce que vous avez été déçu vous aussi et par qui?
Alors écoutez, moi je n'ai pas la même maladie que beaucoup de mes confrères de journalistes politiques qui ont à la fois une fascination et une répulsion pour les personnalités politiques ou le monde du pouvoir qui passent leur vie à écrire sur le pouvoir et les politiques, et en fait on ressent dans leurs articles qu'à la fin ils ne les aiment pas. En tout cas certains de mes confrères sont comme ça. D'ailleurs c'est pas vraiment une maladie, c'est une manière, une méthodologie peut-être chez eux. Moi en revanche, je vous avoue que j'ai voulu devenir journaliste politique parce que j'adore les hommes politiques, y compris des gens pour qui je vote pas. Et que, effectivement, moi, pouvoir côtoyer ou discuter avec Sébastien Lecornu, Édouard Philippe, François Bayrou, Marine Le Pen.
Et la gauche François
Fillon. Bah, Jean-Luc Mélenchon, j'ai été rubricard, j'ai un chapitre que je lui consacre, hein. J'ai été rubricard à l'époque où je travaillais à l'Express, où je m'occupais de la campagne de Jean-Luc Mélenchon. En 2012, j'ai fait tous ses meetings, j'ai pris le train avec lui, des taxis avec lui, j'ai discuté avec tous ses conseillers. Et honnêtement, j'ai vécu des moments très forts, quoi. Je me souviens d'un meeting au Zénith de Clermont-Ferrand en Auvergne, qui était dinguissime. Je me souviens du meeting sur la grande plage à Marseille, du grand meeting sur une plage à Marseille à la fin de la campagne où il y avait je sais pas combien de dizaines de milliers de personnes. J'ai vu cet homme avec sa scansion, avec sa rhétorique, avec sa sophistication, avec ses convictions aussi advenir. Et puis j'ai aussi vu Jean-Luc Mélenchon de très près se cracher pendant la campagne des législatives qui a suivi, où il était allé défier Marine Le Pen dans le Pas-de-Calais. Et je raconte des scènes où on a fini par s'engueuler parce qu'il m'accuse d'être personnellement lié à l'extrême droite. Alors, ce qui est partiellement vrai au sens où je viens d'une famille très à droite, mais ce qui est déjà se dit pas. Parce que je vois pas en quoi je suis lié à ma famille dans mon job journalistique. Et puis
faut jamais s'excuser pour sa famille.
Et que par ailleurs, j'ai trouvé ça très en dessous de la ceinture. Mais en même temps, je regrette pas du tout d'avoir pu côtoyer Jean-Luc Mélenchon.
Vous assumez, vous aimez les hommes politiques.
Donc moi, je trouve que c'est des gens, des personnalités.
Mais vous pouvez garder une certaine distance quand même nécessaire. Alors, dans ce métier.
Écoutez, là, vous avez eu la gentillesse de dire que c'était assumé chez moi. Et effectivement, certains diront ça va trop loin dans la proximité. Mais ce que j'ai essayé dans ce livre, en tout cas, c'est d'être authentique. Donc c'est-à-dire que quand j'aime bien des choses, c'est Édouard Philippe, quand bien même, soi-disant, c'est pas la droite valeur actuelle, je le dis. Quand j'ai passé des bons moments avec Marine Le Pen, quand bien même c'est pas chic de le dire, je le dis. Et j'espère qu'on retiendra au moins ça pour ma défense, entre guillemets.
Et moi, je voudrais m'exprimer en tant que militant de droite. C'est-à-dire que moi, voilà, j'ai longtemps été un militant. J'ai commencé à 15 ans chez Philippe de Villiers au Mouvement pour la France. Je suis passé à l'UMP, puis au LR. J'ai fait une campagne de Sarko. Et ensuite, j'ai fait la campagne de Zemmour. Donc, vous voyez, tous les pans de la droite, je les ai croisés, connus. Mais je les ai croisés en tant que militant.
Oui.
Et il y a une vraie différence entre dépeindre la droite comme vous le faites depuis le côté journalistique, avec peut-être une fascination pour les grands hommes politiques, là où moi, ma droite, c'est la droite des militants. Je vais être presque brutal, j'ai le sentiment que vous faites un tour dans un cimetière, en fait, dans votre livre. Parce qu'ils sont tous déjà morts. Ils sont tous déjà morts. Ils sont encore fascinants. Mais c'est la droite d'hier. C'est la droite très catho, très de l'Ouest. Et moi, j'ai connu une droite des militants. Je pense à tous mes camarades de l'Uni. Et je vois une droite qui est très différente de tous ces hommes. Et donc, précisément, je pense que votre livre doit être vu comme un livre d'histoire. C'est-à-dire que c'est la droite ancienne. C'est la droite traditionnelle.
C'est quoi la droite nouvelle, alors ?
Précisément, parce qu'on reste trop fasciné par cette droite historique, la droite est incapable de se recréer. Et il y a partout en France des militants de droite qui espèrent un renouveau, et le renouveau n'apparaît pas parce qu'on est bloqué par les figures tutélaires de Sarkozy, parce qu'on est bloqué par la figure cathodique de Philippe de Villiers qu'on regarde à la télé. Et en fait, ces gens-là sont responsables, d'après moi, de l'incapacité pour la droite normal, entre guillemets, de se renouveler.
Alors, comme dans mon livre, il y a quand même énormément de choses sur Bruno Retailleau, sur Édouard Philippe, sur Marion Maréchal ou sur Marine Le Pen, vous m'accorderez que eux sont pas encore dans le cimetière de la politique.
Ah, bah si.
Bah, en tout cas, parmi là, il y a au moins deux candidats à la prochaine élection présidentielle. Oui, mais après, j'assume le côté un peu mémorialiste de mon camp. Ça, c'est totalement assumé. Et d'ailleurs, je dis, je crois, la deuxième phrase de mon livre, que je suis trop jeune pour me retourner, mais qu'en même temps, j'ai déjà envie de rendre hommage. Donc, que je voulais pas patienter trop longtemps avant de le faire. Et après, pour ce qui est des militants ou des vrais gens entre guillemets, il y a effectivement deux types de personnalités dans mon livre. Il y a des personnalités publiques, et là effectivement on est dans les salons du pouvoir, on est dans les coulisses de la politique un peu parisienne, je vous le concède. Et après vous m'accorderez qu'il y a énormément de choses aussi sur des personnalités privées, et j'ai raconté mon enfance dans la banlieue ouest, le scoutisme, les gens que je croisais à l'école, des gens totalement anonymes qui se font aujourd'hui partie de mon entourage, de mon réseau, de mes amitiés, et qui n'ont pas renoncé à changer le monde et qui le font de manière tout à fait discrète. Et je raconte leurs goûts musicaux, la manière dont ils élèvent leurs enfants, là où ils vont à la messe, des curés anonymes, dont mon frère d'ailleurs.
Ouais.
Et que donc ça, c'est
la messe en latin.
Les exactement.
Mais pourquoi vous êtes aussi marqué par votre frère qui est devenu prêtre?
En fait, je suis très marqué par mon milieu, parce que je suis très marqué par un milieu que j'ai tout de suite ressenti comme archétypal. J'ai grandi en étant conscient devant l'évidence que j'appartenais à une famille totalement anormale, entre guillemets. Nous étions devenus des anomalies par rapport à la manière dont se construisait le monde, la modernité, effectivement. Il y a un côté très passéiste. Et en même temps, j'ai eu une rébellion face à ça. Je raconte des passages d'émancipation dans le livre, un voyage à Cuba notamment, où j'avais pu croiser Angela Davis, etc. Et d'autres musiques, d'autres couleurs, d'autres paysages, et vers lesquels j'ai eu besoin de me tourner. Et en même temps, c'est ce milieu, six enfants, messe en latin, décriés, moqués, quand on prenait le train de banlieue, qu'on était tous habillés pareil en Cyrillus, je voyais bien que les gens nous regardaient d'un air goguenard et extrêmement moqueur. Et Alban, qui est mon frère prêtre, et pour moi évidemment la quintessence de ça, c'est-à-dire que lui, il est carrément en soutane, il dit la messe en latin, il a une vie de prêtre, hein, donc c'est-à-dire tous les jours il lit son bréviaire, il est pas entre guillemets dans le vrai monde, et en même temps pourtant c'est quelqu'un de très jovial et très sociable. Il a fait énormément de sacrifices, une vie de prêtre aujourd'hui avec toutes les histoires qu'il y a dans l'Église, c'est aussi une vie de calomnie, de moquerie, très à contre-courant, et il m'apporte beaucoup parce que comme il est beaucoup plus détaché du monde que moi. Bah, il m'apporte un regard sur les choses, une métaphysique, des élans spirituels qui, je pense, sont assez universellement louables.
Merci, Tuc Dualdeny, d'être passé par les GG, La cendre et le feu aux éditions.
Très original, parce que c'est pas un livre
politique.
C'est pas un livre de journaliste politique comme les autres, parce qu'il est à la fois très personnel et en même temps, on apprend beaucoup de choses aussi sur ces hommes de droite que vous fréquentez. Donc, moi, je le conseille parce que c'est assez différent de ce qu'on peut lire habituellement de la part des journalistes politiques en France.
Merci beaucoup, Grande Gueule.
Merci, Tuc Dual.